Ainsi, dans chacune de vos paroisses cette semaine, il y a eu de la ferveur, il y a eu de la lumière, il y a eu de la simplicité pour prier, pour s'adresser à Dieu, et vous vous sentez bien de quelque chose de la personnalité de Thérèse. Eh bien, elle est venue répandre son parfum parmi vous. C'est le moment de remercier profondément le Seigneur. C'est le moment de remercier Thérèse aussi. Ce soir, nous sommes là justement pour dire merci, pour faire monter vers Dieu une reconnaissance et une action de grâce. Eh bien, Thérèse, vous savez probablement que dans l'Église catholique, Thérèse porte deux titres. Sainte Thérèse, bien sûr. Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, de la Sainte Face. Mais plus tard, après sa canonisation en 1925, à deux reprises, l'Église lui a conféré un titre particulier. Le dernier qu'elle a reçu, c'est à Paris, lors des JMJ de 1997, où le pape l'a déclaré docteur de l'Église. C'est incroyable. Elle qui n'a jamais prétendu rédiger des traités de théologie. Elle est docteur de l'Église. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, primo, que l'Église catholique reconnaît sa sainteté. La sainteté, à nouveau. Et deuxièmement, l'Église catholique reconnaît que Thérèse a enseigné quelque chose et que ce quelque chose est conforme à la doctrine de l'Église catholique. Et troisièmement, que dans ce que Thérèse a enseigné, il y a aussi quelque chose de nouveau. Cela fait qu'elle est considérée comme docteur. Autrement dit, que lire ses écrits, que ce soit ses manuscrits autobiographiques, autrement dit les souvenirs de son enfance, ou que ce soit lire et lire ses poèmes, ou lire les lettres, plus de 260 lettres qu'elle a écrites et qui nous sont conservées. Tout cela, lorsqu'on le lit, à travers cela, il y a une doctrine, un enseignement, qui nourrit l'intelligence, le cœur et l'esprit. Autrement dit, vous qui êtes des amis anciens, récents de Thérèse, ne vous contentez pas de, je dirais, d'une dévotion de sentiment. Non, non, il faut vraiment lire les écrits de Thérèse pour se laisser enseigner. Le deuxième titre qu'elle a reçu de l'Église et qui est le plus ancien, c'est patronne des missions universelles. À l'école de Saint-François-Xavier. Alors Saint-François-Xavier, je dirais, on comprend spontanément pourquoi il est patron des missions universelles, puisque compagnon de Saint-Ignace de Loyola au 7e siècle, il a quitté l'Europe pour aller jusqu'en Inde et en Chine, sur ce qu'on disait des terres infidèles, c'est-à-dire le nom de Jésus n'était pas encore connu, et pour pouvoir l'annoncer. Pourquoi il est patron des missions universelles. Mais Thérèse, qui est née en Normandie, a vécu en Normandie, est morte à 24 ans en Normandie, pourquoi patron des missions universelles. Une première chose, c'est elle l'est parce qu'elle en a le désir. Et en fait, c'est la chose la plus considérable. Elle a le désir d'annoncer le nom de Jésus Sauveur. De l'annoncer à ceux qui le connaissent déjà, mais aussi de l'annoncer à ceux qui jamais n'en ont entendu parler. Elle a le désir. Et au moment où, à 15 ans, elle quitte sa famille pour rentrer au Carmel, elle a le désir qu'un jour, elle puisse partir de Normandie pour rejoindre un Carmel en mission, autrement dit dans un pays de mission. Et pour vous dire comment elle vit les choses. Elle raconte que dès le moment où elle entre au Carmel, elle avait cette idée, depuis mon entrée dans l'arche bénie, elle se prend pour Noé, oui, l'arche bénie, c'est ça le Carmel, une arche de Noé des tombeaux d'Égypte. J'ai toujours pensé que si Jésus ne m'emportait pas bien vite au ciel, le sort de la petite colonne de Noé serait le mien. Et qu'un jour, le Seigneur ouvrirait la fenêtre de l'arche, me dirait d'aller voler bien loin vers des rivages infidèles, portant avec moi la petite branche d'olivier. Voilà. Elle sent qu'elle a une mission. Elle voudrait porter la paix, l'annonce de la paix au nom de Jésus-Christ. Voilà, nous comprenons un aspect pour lequel elle est patronne des missions, mais maintenant, je décris trois événements de la vie de Thérèse qui nous aident plus profond que le désir, disons, autrement que le désir, à comprendre pourquoi elle est patronne des missions et surtout, qu'a-t-elle à nous enseigner pour qu'à notre tour, nous puissions être ressourcés, dynamisés et envoyés en mission. La première chose sur laquelle je m'arrête, c'est l'événement qui s'est passé en 1886, elle a 13 ans et demi, à peine adolescente, encore très, très bébé. En fait, elle avait été très douloureusement touchée à l'âge de 4 ans, puisque sa maman est décédée d'un cancer au sein à l'âge de 4 ans. Thérèse en a eu une blessure profonde. Le deuil a été très très difficile, ce qui veut dire que sa personnalité avait complètement changé à l'âge de 4 ans. Avant, elle était vive, joyeuse, ouverte. Voilà qu'avec le décès de sa mère à l'âge de 4 ans, elle devient totalement introvertie, hyper sensible, trop sensible. Imaginez-vous, par exemple, il fallait tout le temps qu'on s'occupe d'elle, il fallait tout le temps qu'elle soit centre du monde dans la famille, pour la compliment, dès qu'elle faisait un petit. Elle allait arroser les géraniums. Si on oubliait de la remercier, elle l'aurait. À l'âge de 13 ans, elle ne savait pas pour se coiffer toute seule, c'est ses sœurs qui la coiffaient. Et quand elle sentait qu'elle avait. Elle se rendait compte qu'elle avait fait une bêtise ou quelque chose de désagréable, elle se mettait à pleurer à ce moment-là. Et puis une fois qu'elle l'a séchée, elle pleurait d'avoir pleuré. Excessive, dont elle souffrait personnellement, elle savait très bien qu'elle était victime de sa propre sensibilité. Ok, à 13 ans, c'est le moment de la fête de Noël, elle va à la messe de Noël avec son père et ses soeurs, aînées, sa dernière, on rentre de la messe de Noël, elle avait communion à la messe. Ainsi, Dieu Tout-Puissant, à travers l'Esprit, se fait impuissant. Et elle fait communier. Alors, elle rentre de la messe de minuit, son père fait une remarque, parce qu'il est fatigué, il voit les souliers devant la cheminée, oh, ben, heureusement que c'est la dernière année, en se disant, bah, après, elle sera un peu plus vieille, on arrêtera de faire ses enfantillages. Et les sœurs savent que la soirée est fichue. Une petite remarque du père comme ça, et elle reste là, et elle fait la tête pour toute la soirée. Or, Thérèse monte, elle enlève son chapeau et son manteau, et elle redescend, heureuse comme une reine. Alors, les sœurs reviennent pas. Et en fait, il s'est passé quelque chose. Elle venait de la crèche, elle venait de recevoir le Christ Eucharistie, et comme elle dit, Dieu Tout-Puissant, à la crèche et dans l'Eucharistie, se fait impuissant. Et cette nuit, la petite Thérèse, qui se savait faible et impuissante, a reçu la force et est devenue forte. Autrement dit, un échange eucharistique s'est accompli en elle. Elle était confrontée à sa fragilité, à son deuil. Voilà. Elle était confrontée à cette difficulté à mûrir et une grâce eucharistique. Déployer son psychisme. Elle est devenue, en un instant, cette nuit de Noël est la première étape décisive de sa vie. Et voilà ce qu'elle dit plus tard. 9 ans plus tard, elle dit « Jésus fit de moi un pécheur d'âme. Je sentis, cette nuit, un grand désir de travailler à la conversion des pécheurs, désir que je n'avais pas senti aussi vivement auparavant. » Et bien voilà quelque chose de bien important qui s'est passé. Jusque-là, elle était introvertie, elle était centrée sur elle-même. Il fallait tout le temps qu'on s'occupe d'elle, et elle ne s'occupait pas des autres. Et voilà que, en cette grâce eucharistique, c'est un décentrement. En fait, le mouvement intérieur est inversé, et voilà que, dès ce moment, elle se lève à s'intéresser aux autres, à se préoccuper des autres, à se soucier des autres, et ça, ce sera toujours. Nous avons là, à 13 ans et demi, la naissance de sa vocation missionnaire. Pourquoi je dis ça? Car elle affirme, cette nuit-là, j'ai eu un grand désir de travailler à la conversion des pécheurs. Voilà ce qui est au cœur. Au cœur du désir missionnaire. Travailler à la conversion des pécheurs. Qu'il puisse faire une expérience de l'amour sanctifique du Christ Jésus. C'est-à-dire que cette nuit-là, aimer pour Thérèse le souci des autres, mais plus précisément, le souci des âmes, c'est la compassion pour les pécheurs. Et pour nous, voilà un premier enseignement. Le missionnaire, c'est quelqu'un qui aime se donner. Chez l'apôtre, on trouve une qualité de compassion, c'est-à-dire d'attention à l'autre, d'écoute de l'autre, et même de compassion pour l'autre. Deuxième événement, il se passe 9 ans plus tard. Thérèse a 22 ans. Ça fait 7 ans qu'elle est carmélite. Et tout en étant une carmélite apparemment heureuse et vivante, il n'empêche qu'elle traverse une crise personnelle. Et voilà que, tout en étant carmélite, elle est assaillie de désirs incompatibles avec la vocation de carmélite. C'est quoi ces désirs incompatibles? Elle a terriblement envie de partir à l'étranger, dans les pays lointains où le Christ n'a pas encore été annoncé. Elle a aussi le désir d'être soldat. On est dans les années où l'État du Vatican est en guerre, doit rester, elle voudrait être soif pontificale pour défendre les États du Vatican. Elle a aussi le désir d'être prêtre. Vous entendez bien, elle qui est une femme, carmélite. Elle a le désir d'être prêtre pour pouvoir à l'autel tenir le corps de Jésus Eucharistie et l'élever. Elle a aussi le désir d'être martyr. Et du coup, dans ce couple dans lequel elle est, elle scrute les Écritures, les Saintes Écritures, elle lit la Bible, elle cherche une réponse, elle cherche une lumière, elle cherche à être apaisée. Alors elle cherche, elle lit. Et puis, à force de lire, de lire, de lire et de prier, un jour, elle est éclairée. Elle trouve la paix. Elle trouve la paix en trouvant l'Église. Ça veut dire quoi? Eh bien, c'est dans les écrits de saint Paul. Deuxième épître aux Corinthiens, elle découvre que l'Église est un corps. Ça veut dire au chant, nous sommes le corps de Christ. Source de l'amour. Et voilà ce qu'elle écrit. je compris que si l'Église avait un corps composé de différents membres, elle avait aussi un cœur, et que ce cœur était brûlant d'amour. Je compris que l'amour seul faisait agir les membres de l'Église, que si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile, les martyrs refuseraient de verser leur sang. Je compris que l'amour renfermait toutes les vocations. Et bien dans son trouble, Milite, avec tous ses désirs qui l'assaillent, dans son trouble, elle reçoit la lumière et elle reçoit la paix. Elle affirme : j'ai trouvé ma place dans l'Église, et cette place, ô mon Dieu, c'est là qui me l'a donnée, dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Et bien, quelques années, elle a découvert l'Église, l'Église corps de l'Église, et non seulement l'Église, mais elle a découvert sa propre place dans l'Église. Quel cadeau que je souhaite à chacune et chacun de nous, non seulement de découvrir l'Église corps, mais de découvrir ma place unique dans l'Église. Que c'est beau. Et que c'est dynamisant, pacifiant, et que cela nous pousse dans la mission. Alors, quelle est la leçon sur cet événement que je mentionne? La leçon, l'enseignement. Le missionnaire n'est pas un être isolé. Je répète, le missionnaire n'est pas un être isolé. Le missionnaire, l'apôtre, est relié au corps dont il est un membre. Je demande à Thérèse ce soir d'intercéder pour que chacune et chacun de nous ne soit pas un électron isolé, mais soit véritablement un membre, un corps dont le Christ est la tête et dont chacun de nous est un membre. Troisième événement que je mentionne, ça se passe un an plus tard. Thérèse a 23 ans, jusqu'à 24 ans d'ailleurs. Ça peut paraître assez inattendu chez une jeune fille du 19e siècle. C'est quoi? Une épreuve de foi. Depuis son enfance, Thérèse est portée par le ciel, l'au-delà. Alors ça, je sais bien, pour les gens du 20e et du 21e siècle, c'est pas toujours très facile à saisir. Il n'empêche, Thérèse, depuis son enfance, elle vit pour le ciel. Alors, soyons clairs aussi, sur 9 enfants dans la famille Martin, il y en a 4 qui étaient morts en bas âge, et je dirais, elle connaissait ses frères et sœurs, enfin, sœurs de la lettre, vivante, mais on lui parle tout le temps de celui des défunts. 4, 2 frères et 2 sœurs, aînés pour elle, étaient au ciel. Et du coup, chez elle, il y a une sorte de connaturalité entre ce qu'elle vit sur la terre et l'invisible du ciel. Donc depuis son enfance, elle vivait pour le ciel. Et voilà que, dans cette période, déjà elle en avait un petit peu parlé avant ses 20 ans, mais après ses 20 ans, ça a parlé plus fortement, vers 23 ans, voilà que le ciel était si lumineux, était si porteur pour elle, le ciel s'assombrit et disparaît. Alors voilà comment elle écrit. La pensée du ciel faisait tout mon bonheur. Je ne pouvais pas croire qu'il y eût des impies qui n'aient pas la foi. Ça se perd. Et puis le ciel passe à son bout, jusqu'à disparaître. Et voilà ce qu'il écrit. Dieu m'a fait sentir qu'il y a des âmes qui n'ont pas la foi. Il permit que mon âme fût envahie des plus épaisses ténèbres et que la pensée du ciel, si douce pour moi, ne soit plus qu'un objet de tout. Et cette épreuve ne va pas durer un jour, deux jours ou trois semaines, elle va durer 18 mois, puisque jusqu'à son dernier souffle, Thérèse va être dans cette obscurité de la foi qui fait qu'au moment de sa mort, à 24 ans, à l'infirmerie du Carmel, à cause de la tuberculose, les sœurs qui étaient autour d'elle avaient le sentiment qu'elle allait mourir dans la désespérance. On a prié pour elle. Et au moment où elle a rendu son dernier souffle, la chose s'est passée de la manière suivante. Elle était dans cet état angoissée, qui semblait désespérée. Et voilà qu'elle s'est redressée sur ses oreillers, assise, avec un visage tourné vers le ciel, on dit le temps d'un credo. Je confesse à tout, je crois en vous. Avec le visage irradié. Et puis, elle est tombée sur son oreiller en rendant son dernier le visage irradié. Le Seigneur est venu la chercher pour qu'elle ne meure pas dans l'angoisse. Donc j'en reviens juste avant. Comment réagit-elle dans ce tourment où le ciel a disparu pour elle? Eh bien, Thérèse réagit. Elle, en fait, elle n'est pas surprise. Elle avait beaucoup lu Saint Jean de la Croix et donc elle sait ce qui lui arrive. Elle comprend, c'est une épreuve, c'est difficile, mais il y a une fécondité. Du coup, elle réagit par des actes de foi. Elle a donc écrit sur un petit papier le credo, avec son sang, sur un petit papier. Elle a plié en tout petit et elle le met dans sa poche, sur son cœur. Et du coup, au moment où elle n'arrive plus, en raison de l'épreuve de foi, n'arrive plus à prier avec ses lèvres, elle pose sa main sur le credo, sur son cœur. Et c'est l'acte de foi qu'elle peut faire à ce moment-là. En fait, c'est une épreuve décapante, profonde. En fait, c'est l'épreuve que connaît la personne athée. Et Thérèse comprend, elle comprend qu'elle communie à quelque chose de son époque où des hommes et des femmes sont athées. Autrement dit, pour qui Dieu n'est rien. Elle comprend que c'est une communion avec les personnes athées. Et du coup, ce sentiment de l'absence de Dieu, si elle s'est éteinte. Au lieu que ça la déstabilise, c'est devenu pour elle le lieu d'une communion. Et du coup, elle porte ses frères et sœurs à travers cette épreuve. Elle est consciente que Dieu agit, que Dieu la façonne, et là encore, du coup, elle est apôtre. Même si elle n'a pas de contact direct avec une personnalité, elle est apôtre parce qu'elle est une communion d'expérience. Alors c'est quoi la leçon de ce troisième événement? Le missionnaire n'est pas quelqu'un qui est épargné par l'épreuve dans la foi. Au contraire, l'apôtre est quelqu'un qui est façonné par une douloureuse purification de la foi. Ce n'est pas une sanction, ce n'est pas un châtiment, c'est une purification de la foi. Purification qui rend la foi féconde, très féconde. Pour chacune et chacun de nous, que Thérèse intercède, elle qui est patronne des missions universelles. Voilà, après avoir passé une semaine chez vous, elle vous accompagne dans son esprit, sa prière, son intercession. Qu'elle permette à ceux d'entre vous qui seront confrontés au témoignage de pouvoir être forts. J'ai entendu parler de Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui. Jésus qui dit, et c'est exactement notre situation. Je vous le dis, Jésus, quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié devant les hommes sera renié à son tour en face des anges de Dieu. Alors, on est tous pareils. On aimerait témoigner, et des fois, c'est difficile de trouver des circonstances pour témoigner. Mais des fois aussi, c'est sans qu'on le veuille qu'on est provoqué à témoigner, mis en procès. Alors écoutez ce que Jésus, c'est l'évangile de tout de suite, hein, ce qu'on entendait après. Quand on vous traduira devant les gens des synagogues, les magistrats et les autorités, autrement dit, on vous mettra au tribunal. Ne vous inquiétez pas de la façon dont vous vous défendrez ni de ce que vous direz, car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faudra faire. Il y a des moments de la vie, tu n'as pas prévu comme ça, mais tu es mis en demeure de rendre compte de l'espérance qui est en toi, du nom de Jésus peut-être. Tu n'as pas choisi et tu sens bien que c'est l'heure de vérité où il faut pouvoir témoigner. Je demande au Seigneur qu'il permette à notre époque, à chacune et chacun de nous, de pouvoir être là au rendez-vous quand ce sera l'heure de témoigner. Ça a été comme ça pour saint Paul. Parmi les plus beaux témoignages de saint Paul, c'est quand il a été mis au tribunal, accusé, et qu'il fallait à ce moment-là qu'il justifie sa foi. Voilà, que le Seigneur vienne parmi nous, qu'il envoie son esprit.